c'est Pascal Solière et c'est l'épisode 14 de ITcast du 12 juin 2015. Aujourd'hui, je retrouve Arnaud et Stanislas et on va commencer par vous parler de Windows 10 et de son upgrade et de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur ce fameux outil de réservation de la future mise à jour vers Windows 10. Ensuite, on va apprendre les langues avec le rachat de Blue Stripe en anglais et de Wunderlist en allemand. On reviendra un petit peu sur AAD Join et sur Azure avec notamment le tournage qu'on a en cours des cours MVA sur la certification Azure avec Arnaud et Stan. On aura quelques nouvelles autour d'Azure également, de nos actualités, des événements. Et on terminera avec Stanislas en vous expliquant comment vous pouvez aujourd'hui vous exprimer et mettre des suggestions sur nos produits Windows 10, Office, Windows Server, Azure, etc. Sans plus attendre, on retrouve Arnaud et Stanislas.
Eh bien, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Stanislas et Arnaud. Bonjour.
Bonjour.
Salut à tous et à toutes.
On va parler aujourd'hui, pour cet épisode numéro 14, on va parler de Windows 10, pas mal de Windows 10. Donc on parlera de Windows 10, on parlera de Azure. Et Stan nous racontera à la fin comment vous pouvez vous exprimer sur nos produits et orienter peut-être le développement de pas mal de nos produits. Hein, Stan ?
Exactement, on parlera tout à l'heure des user voice pour être plus précis.
Voilà, donc commençons par Windows 10. Donc vous avez certainement remarqué depuis une bonne semaine maintenant que un nouvel outil était apparu sur vos Windows si vous êtes dans certaines configurations qu'on va détailler. Un nouvel outil qui vous permet de réserver, entre guillemets, votre future migration vers Windows 10 qui est gratuite. Et on va rappeler comment ça se passe, dans quelles conditions c'est gratuit, dans quelles conditions l'upgrade va pouvoir se faire. Et qu'est-ce que ça veut dire également pour nos clients entreprises par rapport aux clients personnels, individuels, etc.
C'est assez marrant ça de réserver quelque chose qui est dématérialisé. On connaissait la réservation pour un objet physique, la console de jeu qu'on allait chercher, le dernier téléphone à la mode. Mais pour du dématérialisé, je pense qu'on a innové et je pense qu'on est les premiers sur ce coup-là, quasiment.
Effectivement, je ne sais pas si le terme de réservation était très judicieux. En fait, il faut savoir que cet outil-là, donc si vous l'avez vu, c'est un outil qui apparaît sous la forme d'un drapeau Windows dans la barre de notification de votre Windows 7 ou Windows 8, 8.1. Cet outil, en fait, quand vous l'activez, il va pouvoir vérifier la compatibilité de votre poste, de votre Windows actuel, avec le futur upgrade, la future mise à jour vers Windows 10. Cette mise à jour qui, rappelons-le, arrivera à partir du 29 juillet 2015, date de mise à disposition de la version finale, on peut dire, de Windows 10. Donc il y a une vérification de la compatibilité de la machine, donc ce qui est plutôt sympa. Moi, j'ai eu un cas, par exemple, sur une machine qui est une machine virtuelle, dans un cas assez particulier, qui avait son driver vidéo, qui a priori était annoncé comme non compatible avec Windows 10. Donc quand je ferai l'upgrade, ce sera à mes risques et périls. Il peut y avoir d'autres matériels dont les drivers aujourd'hui ne sont pas encore là pour Windows 10. Donc c'est une chose que fait l'outil. Et l'outil, d'après ce que j'ai lu, alors apprendre peut-être avec des pincettes, mais va faire le téléchargement entre maintenant et le jour de la sortie de la dispo complète de Windows 10. Et donc, peut-être que l'avantage sera que le téléchargement ne se fera pas en une seule fois, parce que je crois que ça fait un volume de 3,5 gigas. Donc, ce qui serait un peu ballot si on a plusieurs machines à la maison qui vont tirer 3,5 gigas par notre petit câble ADSL à la campagne.
Je ne sais pas.
Comme c'est le cas de certains.
Je ne sais pas, Pascal, moi j'ai la fibre, donc tout va bien. Non, effectivement, c'est une bonne idée de lancer ce pré-téléchargement en fait, de manière toute douce en arrière-plan, ce qui évite effectivement ces effets de frustration, comme certains ont pu connaître sur des consoles de jeux, où effectivement, quand ils la branchent, d'ailleurs une connexion très faible débit, on leur annonce qu'il va y en avoir pour 4 ou 5 gigas et 2 ou 3 jours de téléchargement, alors qu'on est dans les fêtes de Noël, par exemple.
Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur cet outil ? Aujourd'hui, on sait que c'est un outil qui est descendu donc, sur les postes compatibles Windows 7 et Windows 8.1 connectés à Windows Update, c'est-à-dire que les postes qui sont WSUS ou SCCM, ce genre de choses-là, ne récupèrent pas cet outil. Donc il faut être connecté directement en Windows Update. On sait également que cet outil n'apparaît pas sur Windows, les versions entreprises de Windows. Donc c'est uniquement pour les versions Home, personnel et pro. On sait également que c'est un article de KB, donc une mise à jour de Windows qui est arrivée par Windows Update au mois de mai et qui s'est déclenchée donc récemment pour installer l'outil en question qui s'appelle gwx.exe, gwx comme get Windows 10.
Ah, c'est donc ça. GW10. Hmm.
Le développeur ne manque pas d'humour. Hmm. Enfin, c'est un humour un petit peu spécial, mais...
Ou de référence.
Voilà. Les administrateurs pourront bloquer la fonctionnalité de mise à jour vers Windows 10, en tout cas la délayer un petit peu.
On peut le dire ?
Il y aura une fonctionnalité, ouais. En fait, c'est un article de KB, de mise à jour de Windows Update, du client Windows Update, qui arrive en... qui est publié à l'heure actuelle sur Windows Update en mise à jour optionnelle et qui donc viendra dans quelques temps en mise à jour classique. C'est la 305.02.67, l'article de KB 305.02.67, qui en fait vient pour une update, une mise à jour du composant Windows Update. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette mise à jour va aussi rajouter des fichiers ADMX sur le poste. Les fichiers ADMX, c'est ce qui permet de définir en gros des paramètres de GPO. Donc en fait, une fois qu'on aura installé cette update, on va récupérer les fichiers ADMX, on va les installer dans le SysVol, dans le répertoire Policy Definitions du SysVol, si on a un SysVol centralisé, et ça va nous permettre d'activer une option sur les postes qui dit Disable OS Upgrade. Et donc comme ça, tu feras que la machine ne se mettra pas à jour parce que tu estimes que tu dois un petit peu former tes utilisateurs peut-être à Windows 10 en attendant, ou alors tu veux un petit peu plus évaluer ça dans un cadre un petit peu maîtrisé. Donc il y aura cette possibilité de bloquer ça par GPO si on a un environnement dans lequel on ne veut pas que ça se propage automatiquement.
D'accord, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Yes.
Pour les entreprises.
À noter que de toute façon, pour le SKU Enterprise, la mise à jour de l'operating system ne se fera pas. Elle ne se fera pas via Windows Update, en tout cas.
Elle se fera par les canaux habituels. Elles ne sont pas concernées par cette offre particulière, qui est particulière dans tous les sens du terme, en termes de mise à jour et en termes de tarif, puisque c'est gratuit pendant un an. C'est gratuit pendant un an, je le rappelle. Ça veut dire que on peut faire l'upgrade pendant un an gratuitement. Mais la mise à jour, le PC mise à jour reste avec une licence valable toute la durée de vie de l'appareil. Et d'ailleurs, à ce sujet, Stan, il y avait eu un tweet la semaine dernière de Gabe Hall, qui est le responsable du programme Insider de Windows 10.
Tout à fait.
Qui nous a précisé...
Il l'a précisé à juste titre.
Qui nous a précisé que... Parce qu'une question, une question qu'on a beaucoup posée, qu'on nous a beaucoup posée récemment, c'est...
Si je dois réinstaller mon PC.
Exactement.
Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois repartir d'une install avec un vieux Windows et après relancer la procédure de mise à jour? Ou est-ce que je peux le réinstaller directement depuis une ISO? En gros, comment je fais pour repartir si mon PC, qui avant était dans une ancienne version de Windows, a été upgradé et que j'ai dû le réinstaller parce que, je ne sais pas, le disque dur ou le SSD a eu un problème? Et donc la réponse est, Pascal ?
Et donc la réponse est, alors contenue dans les 140 caractères habituels de Twitter,
une réponse succincte et de qualité.
Succincte et de qualité, où chaque mot compte. Donc traduit en français, ça donne. Une fois que vous avez upgradé vers Windows 10, vous pourrez refaire une installation propre, refaire une clean install de Windows 10 sur le même périphérique, n'importe quand. Donc ce qui est important, c'est qu'on pourra refaire une clean install, donc a priori avec, alors là j'extrapole, mais je pense que c'est ça, avec une ISO, avec un support du produit, donc repartir de zéro, sur le même périphérique. Donc ça veut dire qu'il y aura d'une façon ou d'une autre un contrôle du fait que c'est le même matériel. et puis n'importe quand, c'est-à-dire même après l'année où la mise à jour est gratuite. Donc on n'est plus dans un scénario d'upgrade, on est dans un scénario de réinstallation complète à partir d'une machine propre. Et étant donné qu'on a fait l'upgrade sur une machine, la licence est associée à la machine, et ceci pour la durée de vie de la machine. Donc on pourra refaire une install propre n'importe quand, après, même après l'année, la première année. À propos d'ISO, on peut également rappeler que si on ne fait pas l'upgrade par Windows Update tel qu'il sera proposé à partir du 29 juillet, on pourra également faire des upgrades à partir de l'image ISO ou d'un support de Windows 10. Donc on n'a pas encore les infos sur est-ce que l'ISO sera disponible comme ceci, simplement, par quel biais, etc. Ça, on n'a pas encore l'info. Mais ça sera possible également de faire un upgrade gratuit à partir d'un support. Donc, autre question qu'on pose à propos de l'upgrade. Est-ce que Windows RT reçoit un upgrade pour Windows 10? Donc, non. Il n'y a pas d'upgrade Windows 10 pour Windows RT.
Je vais dire, c'est bête, hein, mais effectivement, pas de version ARM, entre guillemets, sous la forme upgrade de la version RT, hein, qui était, on le rappelle, hein, juste sur disponible sur la surface ARM. Et sur une seconde tablette, est-ce que tu te rappelles, Pascal,
Nokia.
La Nokia.
Nokia,
voilà.
Donc j'ai oublié le numéro, 25 quelque chose.
Voilà. Elle était rouge.
25-20,
ouais, une collector d'ailleurs, hein, dans quelques années. Et donc, effectivement, bah, ces tablettes-là, on va les laisser en 8.1.
Il est question de mise à jour qui apporterait certaines des fonctionnalités, certaines nouvelles fonctionnalités sur Windows RT, mais pas encore d'infos à ce sujet-là.
Parmi l'actualité du moment, aussi une acquisition récente que vient de faire Microsoft d'un éditeur de logiciels qui s'appelle BlueStripe Software. BlueStripe Software, qui est spécialisé en fait dans le...
Les bandes bleues.
Oui, exactement, des Blue Stripe. Donc Blue Stripe qui fait du monitoring avancé pour System Center, qui permet de voir comme ça très en détail une application qui est installée sur plusieurs plateformes. Donc ça va venir assez logiquement en fait compléter notre offre autour de Microsoft Operations Management Suite pour avoir comme ça une vue vraiment très en profondeur de ce qui se passe sur une infrastructure largement distribuée, enfin une infrastructure comme on l'a tous à l'heure actuelle. Et BlueStripe est aussi assez fort, il propose comme ça une analyse des composants logiciels qui va aider dans notamment des thématiques de migration. On est pour un certain nombre d'organisations en plein dans la migration de Windows Server 2003 vers une plateforme moderne, et bien BlueStripe a des solutions qui permettent comme ça d'analyser les dépendances logicielles et donc faciliter un peu les étapes de migration qu'on connaît à l'heure actuelle.
Ouais, c'est peut-être dommage, on aurait dû le racheter un petit peu plus tôt, ça aurait peut-être pu nous aider pour les migrations Windows 2003.
Exactement, vaut mieux tard que jamais, hein, comme on dit, donc ouais. on aura ça dans notre portefeuille de logiciels à disposition pour nos clients, sans doute. Plus de choses resteront à annoncer, bien évidemment, dans les jours à venir, mais pour le moment, voilà ce qu'on peut en dire pour BlueStripe.
Si on parle de rachat, on a également racheté une petite boîte, c'est une start-up hein, qui était berlinoise, donc allemande, qui en fait s'appelle Six Wunderkinder. Je ne le prononce pas en allemand, je n'ai jamais fait d'allemand. Mais en fait, ils font une application de gestion de tâches qui s'appelle Wunderlist, qui est assez connue pour ceux qui sont sur iOS et Android, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est alors l'application où la société, enfin, ça a été créée il y a à peu près 5 ans, c'était en 2010. Hein. Et du coup, aujourd'hui, il y a quand même à peu près 13 millions d'utilisateurs qui en gros se font des listes et se les partagent, etc. Donc c'est vraiment fait pour du travail en équipe. Et l'idée, effectivement, c'est de partager ces listes sans passer par le traditionnel email. Et donc c'est une application qui s'utilise directement depuis un smartphone ou une tablette. Donc du coup, on a racheté cette petite société qui avait effectivement une application qui est plutôt pas mal utilisée. Et on se doute bien effectivement, c'est une application qui combine à la fois du mobile et du cloud. Ça tombe bien parce que je crois qu'on a une stratégie ces temps-ci qui est plutôt de mobile.
Et de cloud, enfin même globalement, on vit dans un monde de cloud et de mobile et puis on accompagne naturellement ça.
Exactement. Et en fait, ça va plutôt en fait bien avec également... d'autres rachats qu'on a fait récemment, on avait dû en parler dans les podcasts précédents, n'est-ce pas Pascal ? Parce qu'on a racheté dans les derniers mois, effectivement, l'application d'Agenda Sunrise, et puis tout ce qui est gestion de courrier avec Accompli, qui du coup a changé de nom, il est devenu Outlook, je crois.
Bah, Accompli, ça a donné lieu à Outlook, oui, effectivement, sur Outlook sur Android et Outlook sur iOS.
Exactement. Et on avait même acheté une petite start-up, en fait, au mois de mars, qui s'appelle LiveLoop, qui, en fait, permettait de créer, enfin, faisait une application qui permettait de partager des présentations PowerPoint ou du PDF en ligne. Donc là, on est vraiment sur le monde du partage et du mobile et du cloud, et que du coup, on a des petits rachats comme ça de petites applications qui étaient pas mal utilisées. Et puis doucement, bah, ça va enrichir notre portfolio d'applications, parce qu'on est assez large maintenant, et puis on fait des applis pour tout le monde, entre guillemets, hein, que ce soit Android, on va dire Apple au sens large, et puis bien entendu tout ce qui est Windows, avec au final ce sera Windows 10 qui sera à la fois multiplateforme.
Donc dans le dernier épisode du podcast, j'étais avec Philippe Béraud et on parlait de AD Join, de Azure AD Join, donc la jointure à un domaine Azure Active Directory depuis Windows 10. Donc un point intéressant, c'est que notre collègue Jean-Yves Grasset, donc comme Philippe, il est dans la direction technique et sécurité, a écrit un bon article bien complet de test de cette fonctionnalité-là, donc un pas à pas très détaillé avec des photos d'écran, donc sur la jointure à Azure Active Directory et les scénarios associés.
Je suppose qu'effectivement, dans son article, il détaille effectivement la différence entre la jointure à un Azure Active Directory et la jointure à un domaine Active Directory, où c'est pas tout à fait la même chose, on n'est pas sur une équivalence à 100%, hein, mais bien sur une gestion centralisée, mais avec des outils de MDM versus une gestion centralisée avec des GPO.
Oui, tout à fait. On parle des deux scénarios, soit en mode « bring your own device », entre guillemets, où la machine appartient à l'utilisateur, et en plus, il ajoute sur son poste personnel son identité professionnelle et donc sa possibilité d'accéder aux ressources de l'entreprise. Et puis l'autre scénario où le poste appartient à l'entreprise, mais pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, on ne souhaite pas inclure dans Active Directory ces postes-là. Ça peut être des postes qu'on donne par exemple qu'on confie par exemple à des sous-traitants et on leur confie ces postes et les utilisateurs vont les initialiser en rejoignant l'Azure Active Directory de l'entreprise avec leur identité professionnelle et automatiquement auront donc la possibilité d'ouvrir une session avec ce compte-là et en même temps l'accès en SSO aux ressources de l'entreprise.
Cool.
L'opération faisant en même temps, hein, le Workplace Join tel qu'on le connaît déjà et la gestion au système de MDM de type Intune tel qu'on le connaît également déjà. Donc voilà, un article vraiment très complet pour terminer sur ce sujet-là qu'on a bien traité avec Philippe il y a quelques semaines. Donc maintenant, à propos d'Azure, on vient de publier le quatrième cours MVA, donc Microsoft Virtual Academy, concernant la préparation
à l'examen,
de l'examen.
Ouais, le 70-533, qui est infrastructure dans Azure. Examen très similaire au 532 qui est censé être pour les développeurs dans Azure, mais qui en fait est très similaire à celui IT. Donc vous pouvez également réviser le 532 avec ces cours. Donc on a publié le quatrième opus, épisode de la série qui en comprendra 6 au total. Donc le dernier cours qu'on a publié, c'est tout ce qui est Azure et stockage dans le cadre de la préparation à cette certification, la 70-533. On aura ce mois-ci, donc au mois de juin, la publication d'un cinquième module qui sera dédié à Azure Active Directory, pardon. Et puis on terminera en beauté en juillet avec la publication du sixième et dernier cours de préparation à cette certification, qui est le cours dédié au réseau dans Azure.
Super. Donc on a parlé de deux certifications, donc la 732 développeur, 733 infra.
Ouais.
Et il y en a une troisième certification.
La 534.
534,
oui. Qui elle est, alors, appelée architecture, mais je pense qu'Arnaud va nous en parler.
Eh oui, parce que c'est le seul de nous trois qui l'a.
Voilà, c'est un petit peu notre maître à tous.
Exactement. Donc, ouais, j'ai passé la 70-534, le cours d'architecture, alors qui est un petit peu différent de la 533. La 533, ça rend des questions purement techniques liées à l'implémentation de technologies dans Azure, donc de technologies de type stockage, de type LVM, de type réseau virtuel, etc. Mais la 534 est un petit peu plus orientée à, on va dire, solution, dans la mesure où on va avoir 3-5 études de cas où il faut lire effectivement des spécifications par rapport aux besoins d'un client, et puis à partir de ça, mapper des réponses techniques ou des technologies présentes dans Azure pour répondre à ce besoin. Vous en doutez, c'est naturellement, on va dire, un petit peu moins technique dans la mesure où on ne doit pas forcément savoir le détail de la commande PowerShell, de ce qu'elle va faire vraiment en profondeur, ce qui nous est demandé dans la 533. Par contre, la 534 va demander de bien connaître effectivement quel type de technologie on va devoir mettre en œuvre pour répondre à ce besoin en particulier. Et comment est-ce que ces composants peuvent aller ensemble, comment peuvent être mis ensemble pour le déploiement de la solution et répondre aux besoins. Alors globalement, effectivement, ça discute toujours de mise en réseau, ça discute toujours de stratégie d'accès aux données, de stockage dans Azure. Il y a par contre, on va dire, un petit peu plus de choses relatives à mon goût au fil de notification, à en échange à l'architecture applicative et quelques petites notions relatives également aux médias services dans Azure. Donc c'est une différence qui est assez importante par rapport à la 533 qui aborde pas du tout ce sujet de médias services et vraiment de manière très légère les fils d'attente et les fils de notification dans les architectures applicatives. Donc voilà, globalement, hein, les détails concernent, enfin, la vue sur la différence avec la 533 par rapport à la 534. Mais à nouveau, sur aka.ms/Arnaud, il y a un article qui dédie la préparation à la 533. Mais on va aussi évidemment préparer tous ensemble un ensemble de ressources qui permettent de préparer le passage de la 534, parce que vous aurez, évidemment, ça vous fera très plaisir de passer à la 534 également, et puis de régaler nos auditeurs avec les informations de préparation à cette certification.
Challenge accepted.
aka.ms/Arnaud pour la préparation de la 533, et puis au fur et à mesure, on rajoutera des choses sur la 534 également.
Super, et puis sur le blog de Stanislas aussi, un article qui récapitule tous les cours MVA. Ouais. On a publié au-delà de...
Depuis l'origine des temps.
Voilà.
C'est-à-dire depuis pas très longtemps, mais on a publié un peu mal de petits cours qui sont soit des cours sur Azure, donc d'introduction ou de perfectionnement à Azure, soit des cours sur Windows Server, avec différents sujets à l'intérieur plus ou moins détaillés, plus ou moins techniques. Des cours également sur tout ce qui est périphérique, mobilité, management. Et également des cours, alors ça c'est le quatrième larron de l'équipe, fait par... Franck Mercier, qui eux sont dédiés au monde SQL Server dans ces dernières éditions. Donc l'idée c'est d'avoir.
Et tous ces scénarios-là.
Voilà, aka.ms/Stanislas, et c'est un des derniers articles. L'idée en fait c'est que je vais maintenir cet article afin d'avoir un endroit où on référence facilement tous les cours qui sont faits en français par des Français. Ce qui sera plus simple, donc, du coup, que d'essayer de chercher dans le site d'origine de la Microsoft Virtual Academy, où le moteur de recherche n'est pas forcément optimal pour rechercher le contenu.
Je voudrais rajouter à propos d'Azure, la publication récente, ça a été mise à jour, d'après ce que je vois sur le site, fin mai, le 29 mai, de guide d'implémentation de services d'infrastructure d'Azure. Donc, c'est en anglais, ça s'appelle Azure Infrastructure Services Implementation Guidelines. C'est situé au niveau de la documentation d'Azure, donc je mettrai le pointeur. Et ça décrit vraiment de façon détaillée un scénario d'architecture très complet. Et ça va du choix de la structure de ses abonnements Azure à l'intérieur de son contrat Azure, etc., jusqu'au choix qu'on peut faire au niveau des groupes de disponibilité, des groupes de ressources, des réseaux, des VPN, des VPN site à site, etc., etc. Et ça se termine par des scripts PowerShell complets pour déployer tout ça dans Azure. C'est plutôt sympathique. C'est une bonne lecture pour se rendre compte concrètement ce qu'on peut faire avec les services infrastructure d'Azure.
Mais écoute, tant qu'on est dans Azure et les petites choses sympathiques, je viens de découvrir aujourd'hui un truc qui est assez sympa, qui a été retweeté par des MVP SharePoint notamment, je pense à Patrick, qui s'appelle IC.Azure, qui est en fait un projet sur CodePlex, qui est en fait un outil PowerShell d'automatisation de construction d'environnement Azure virtuel, donc du IaaS en gros. Et c'est pour construire des plateformes complètes pour pouvoir effectivement rapidement déployer entre guillemets des machines virtuelles. Ça veut dire un environnement complet qui va avoir des réseaux virtuels, du stockage des machines virtuelles pour faire prendre des tests d'intégration rapidement de plateformes. Donc ils ont fait un petit package comme ça d'outils PowerShell. Et ils ont publié ça sur CodePlex. Donc là encore, l'URL sera dans le dans l'article qui correspond en fait à ce podcast. Et je pense que ça va être assez intéressant de regarder ce petit outil pour automatiser la création de plateforme.
Pour terminer avec Azure, donc un événement qui aura lieu le 7 juillet prochain.
À Issy-les-Moulineaux, donc dans les locaux de Microsoft.
Exactement, et qui est un Azure Camp, donc une demi-journée, une après-midi complète bien longue sur Azure, avec deux parties, deux tracks en parallèle, donc deux parcours en parallèle, un parcours développeur, avec des sessions, bon, on mettra le pointeur sur le site, vous verrez que c'est des sessions assez condensées sur 20 minutes par sujet. Et puis un track qui nous intéresse un petit peu plus, nous, personnellement, et qui est le track infrastructure, IT. Où nous, on a structuré ça en deux parties indépendantes. Donc une partie sur Azure Active Directory Premium. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de Azure AD Premium, des choses qu'on n'a pas toujours montrées, comme par exemple les administrative units, ce genre de choses-là qu'on n'a pas souvent eu l'occasion de montrer.
Voilà, la gestion de, par exemple, de comptes de réseaux sociaux pour les entreprises gérées par plusieurs community managers avec des renouvellements automatiques de mots de passe sans que les personnes qui gèrent, qui sont les community managers, ne connaissent ces mots de passe, du self-service, de la publication, d'application, de découverte, pas mal de petites choses. Il y en a qu'on a déjà montré, mais on va là vraiment tout bien ramener dans un même événement.
Voilà, une heure et demie donc sur Azure Active Directory Premium. Et puis, une deuxième partie, une heure et demie également, sur les solutions de sauvegarde et de reprise d'activité avec les technologies d'Azure. Donc, tout ce qui est PRA.
Exactement. Donc là, on va aller un petit peu plus, en détail de ce qu'on a pu montrer dans les précédents Azure Camp et événements, hein, puisqu'on va prendre cette fois-ci le temps de montrer comment on élabore un plan de reprise d'activité qui va inclure... simplement différentes ressources, des machines virtuelles qui peuvent être des machines virtuelles qui tournent dans mon data center et puis qui vont être instanciées dans Azure en cas de pépin, en cas de déclenchement de mon PRA. On prendra aussi le cas avec des machines physiques qui vont être instanciées dans Azure et puis avec des machines virtuelles VMware qui vont être instanciées également dans Azure. Donc on étudiera en fait ces différents cas, comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble de manière unitaire et comment est-ce qu'on les intègre pour faire ensemble en fait un plan de reprise d'activité qui reflète la réalité d'un environnement actuel. On a sans doute des plateformes qui viennent de différents endroits et puis on veut intégrer tout ça dans Azure pour faire un PRA qui soit complet et qui intègre mes besoins de reprise avec situation d'urgence, une reprise minimale de prod en situation d'urgence. Donc on regardera tous les éléments technologiques qui sont présents à l'heure actuelle, comment on les intègre ensemble et comment on les met en œuvre dans Azure.
Voilà, donc une bonne demi-journée de formation. Donc n'hésitez pas, hein, le 7 juillet, donc on sait que début juillet, il y a déjà des gens qui partent en vacances. Donc profitez-en, il y aura de la place et il faut remplir la salle.
Et en plus, on a de la clim, donc je veux dire, s'il fait chaud, c'était un bel endroit pour être au frais pendant l'après-midi.
Voilà, joindre l'utile à l'agréable.
Oui, car il paraît que nous sommes des gens agréables en session, donc c'est plutôt bien.
À propos d'événements, on a presque terminé le Tech Days Tour, donc on a fait quelques villes en France. Il reste plus qu'une session qui a lieu le 16 juin à Bordeaux, et c'est le dernier de ce tour. Cela dit, les Tech Days Tour, ça recommencera après l'été, courant septembre ou fin septembre, ça recommencera, et vous aurez tout évidemment sur les supports habituels.
Exactement, Pascal. Et puis, dans la série Microsoft vous écoute, on va terminer peut-être sur les User Voice.
Hein. Oui.
Régulièrement, en fait, quand on fait des événements, que ce soit Pascal, Arnaud, moi ou d'autres personnes chez Microsoft, vous êtes assez nombreux souvent à venir, des fois en fin de session, discuter avec nous et dire « Ah ben ça, dans Windows, ça c'est pas terrible, on a bien changé ça, ou dans Azure, il y a ça, est-ce qu'on peut faire ça ? Non, ce serait bien si on pouvait, etc. » Donc savoir, c'est que tous ces retours d'expérience, toutes ces idées, ces feedbacks, nous déjà, à notre échelle, effectivement, on essaie de le remonter en interne. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, finalement, où les équipes produits ou solutions qui changent les fonctionnalités ou qui mettent des choses en Windows préfèrent presque avoir un contact plus rapide et plus direct avec, on dirait, les clients, les implémenteurs, Non pas qu'ils n'écoutent pas ce qu'on leur remonte que du terrain, du field, comme disent les Américains. Mais il y a également d'autres moyens aujourd'hui de remonter des idées ou des besoins afin de simplement faire évoluer les produits. Alors, quand on parle aujourd'hui de solutions cloud, on s'aperçoit que finalement, tous les mois ou toutes les semaines, on a des nouveautés qui arrivent régulièrement et finalement une sorte de flux continu en fait, de fonctionnalités qui sont rajoutées au fur et à mesure, ce qui va d'ailleurs arriver dans Windows 10 et Windows au sens large maintenant. C'est-à-dire que quand on parle de ring, fast ring ou de slow ring, c'est vraiment des évolutions de la plateforme qui se font de manière assez régulière. Et on n'est plus sur des grandes marches et des grandes attentes et des roadmaps dans le temps. Donc les fonctionnalités et les éléments qui sont mis dans un produit ou une solution par les équipes produits, du coup maintenant sont faits par rapport également à vos inputs, c'est-à-dire à ce que vous pouvez nous dire sur les produits et ce que vous aimeriez à l'intérieur. Tout ça pourquoi ? Pour dire que finalement le développement a un petit peu changé aujourd'hui. On est plus dans un mode, dans beaucoup de nos solutions, en mode dit DevOps, dans le sens où on est sur une amélioration continue et une prise en compte en fait de remarques qui vont faire changer les priorités de certaines fonctionnalités à développer ou pas dans nos produits. Et c'est là en fait que vous pouvez devenir acteur. C'est-à-dire qu'il existe des moyens d'interaction avec les équipes produits de Microsoft, qu'elles soient celles de Windows, celles de Windows Server, celles de la plateforme Azure, celles d'Office 365, qui vous permettent en fait directement en fait de proposer vos idées ou alors de voter pour des idées qui ont déjà été proposées par d'autres pour dire ben, « cette idée m'intéresse, moi j'aimerais bien qu'il y ait ça et ça ». Donc la technologie utilisée derrière s'appelle User Voice, en fait une société qui a créé ce type de plateforme pour pouvoir faire ce type d'aller-retour de propositions et de choix de vote. Et donc on les utilise chez Microsoft, ces User Voice, donc il y en a un petit peu pour toutes les plateformes. Donc il y en a pour Office 365, il y en a pour Windows Server, il y en a pour Windows Phone, etc. Donc on vous mettra dans l'article les différents liens vers ces User Voice, et à savoir c'est comment ça fonctionne. Donc on arrive sur le portail du User Voice, et puis en fonction de la taille entre guillemets de la solution, si c'est par exemple Windows, on doute qu'il y a plein d'endroits, et il y a plein de bouts de Windows dans lesquels on peut faire des demandes d'amélioration ou des feedbacks. Donc du coup, il y a une sorte de classement qui a toujours lieu en général dans les interfaces sur la partie droite de l'interface. Ou par exemple, pour Windows, si je veux faire des... Donc Windows, ils appellent ça la boîte à suggestions. C'est vraiment le principe de la boîte à idées, sauf que là, on met pas les idées... Enfin, les idées sont réellement lues par les équipes produits et qu'elles en tiennent compte. Donc, par exemple,
c'est-à-dire qu'on a la garantie que tout est lu. Tout est...
Oui, tout est traité. Tout est traité. Il n'y a pas de mauvaises... Entre guillemets, il n'y a pas de... Vous dites, alors effectivement, si vous insultez dans la suggestion, si vous faites une insulte à l'équipe produit pour vous plaindre que tel truc ne marche pas, ce n'est pas forcément la meilleure façon que ce soit pris en compte. Précisons bien que le User Voice n'est pas un endroit de support, c'est-à-dire que ce n'est pas là où vous allez dire bah, ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais, aidez-moi. Le User Voice est fait pour dire plutôt cette fonctionnalité serait mieux si on avait ça, ou un exemple simple, hein, c'est je veux avoir le menu démarrer, je veux retrouver le menu démarrer. Le User Voice en fait, de Windows client existe depuis un certain temps et ça fait partie effectivement des grandes demandes qu'il y a eu. Dans les demandes qui sont un petit peu chaudes ces temps-ci, c'est on demande de pouvoir avoir dans Windows 10 à nouveau de démarrer tout en mode plein écran.
Le fameux petit bouton visuel qui était dans le menu démarrer dans les builds anciennes de Windows 10.
Voilà.
Il a disparu du menu démarrer, il est toujours dans
voilà.
Les settings.
Il y a des gens qui disent bah, depuis la build numéro Intel, ce bouton a disparu, depuis la 10.122 si je ne dis pas de bêtises, rendez-le nous. Donc, et ça, aujourd'hui, il y a déjà plus de 5000 personnes qui ont voté pour dire rendez-le nous.
5000 personnes.
Voilà. Donc 5000 votes, pardon, tant pour moi, 5000
votes. C'est ça qui compte, donc c'est le nombre de votes.
C'est le nombre de votes qui compte. Donc effectivement, plus il y a de personnes qui vont voter, plus ça va encourager effectivement les équipes produits à faire monter en fait cette demande dans leur liste des priorités, afin de répondre aux besoins, etc. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est si vous avez une idée sur une amélioration d'Azure, d'Office, enfin de n'importe laquelle de nos produits, vous pouvez le dire, alors il faut l'écrire en anglais parce que désolé, les équipes de produits lisent en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, ensuite, vous donner un poids de vote. C'est-à-dire que vous avez un quota de vote par identifiant. Et vous allez dire, cette idée me plaît, par exemple. Je vais voter. Donc, vous allez cliquer sur le bouton vote. Vous allez mettre votre adresse email. Donc, c'est un compte live, en fait, tout à fait classique, hein, qu'on peut utiliser. Et chaque compte, en fait, a un certain nombre de votes. Et donc, par exemple, tu peux voter entre 1 et 3 votes pour une idée donnée. En fonction si tu la trouves importante ou pas importante. Là, par exemple, je dis mettre le menu full screen dès le départ, ou moi je vais dire un vote par exemple. Tac, tu cliques et ton vote est pris en compte. Et là, on dit, par exemple, quand tu es sur le user voice de Windows client, tu as droit à 20 votes, en fait. D'accord ? Donc, tu as un nombre qui est limité, parce que si tu avais un nombre limité de votes, bah, tu voterais pour tout. Et si tout important, rien n'important. Donc, l'idée, c'est ça, en fait, c'est de prioriser, en fait, les gens leur donnent un petit quota de votes, et puis, en fait, ils vont aller voter pour les idées qui les intéressent. Et, oui. Et ils peuvent soumettre leur idée.
Et est-ce que tu as déjà voté pour des...
Alors, je l'ai, moi, c'est une
oui, pour des suggestions.
J'ai déjà
parce
voté.
Que moi, je sais que c'est, moi, c'est mon cas.
J'ai déjà voté, j'ai déjà fait des suggestions. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est que, donc, à partir du moment où on a voté en ayant mis son adresse email avant, donc en étant dans le, avec un pool de nombre de jetons hein, pour voter, eh bien, en fait, quand on regarde après les différentes idées, sous une idée proposée, un feedback, on peut avoir des commentaires. Donc, les gens peuvent venir rajouter leurs propres commentaires en disant « Oui, je suis d'accord avec l'idée qui était proposée parce que ça et ça, et on pourrait faire ça. » Et les équipes produits, en fait, lisent ça et vont répondre. Et donc, il y a différents statuts qui vont exister dans la réponse. Donc, il y a le under review. Donc, c'est-à-dire que les équipes produits ont dit « Ok, on va regarder cette idée et on va essayer de voir si elle est pertinente ou pas. » Il y a planned. Planned, ça veut dire que, en fait, c'est déjà planifié, ça existe, c'est déjà prévu par les équipes produits et ça va arriver. Il y a juste qu'il n'y a pas encore le temps qui...
Ça, c'est la bonne nouvelle.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Mmh. Il y a également le underdevelopment. Donc là, ça porte très bien son nom. Ça veut dire que c'est déjà en train d'être développé. Donc ça a été, ils ont fait la review, ils l'ont planifié, puis ils ont démarré le développement. Donc c'est pas underdevelopment, c'est started, autant pour moi.
Started.
Il y a le, ah non, autant pour moi. Le started, c'est à dire ça a commencé. Le plan, c'est à dire c'est planifié. C'est à dire que c'est dans l'agenda, mais ça n'a pas commencé le dev. Donc under review, je regarde ça, si c'est bon. Plan, c'est OK, on prend l'idée et on va la mettre, on va la faire dans le futur. Started, ça veut dire que ça y est, c'est démarré, c'est en cours de développement. Et puis, il y a le terminé. Et là, quand c'est terminé, c'est assez intéressant, c'est que tu reçois un email qui te dit « Hey, rappelle-toi, tu as fait cette proposition, etc. Ça y est, la fonction est disponible, elle est ici, et je te rends les jetons que tu avais, les jetons de vote que tu avais utilisés pour cette idée. » Donc, si j'avais mis trois idées, par exemple, sur dire…
Trois jetons pour une idée,
oui. Trois votes… Eh bien, on va me les rendre quand la fonctionnalité sera réalisée.
D'accord. Et tu as en tout 20 jetons,
ça ? Alors, 20 jetons, par exemple, sur la plateforme Windows client, qui est relativement large, parce qu'elle intègre Windows, PC, tablette, le téléphone, la Xbox, etc., le gaming. Donc, c'est tout dans le même bloc. On a la partie Azure. Je ne me rappelle plus combien on a de jetons dans la partie Azure. Je crois que c'est une vingtaine également.
Donc Azure, si on veut des améliorations dans le nouveau portail, par exemple, c'est là qu'il faut le faire.
Exactement.
Je dis ça comme ça. Hein.
Oui, et on vous encourage à le faire. Alors sur Azure, comme c'est une plateforme qui est assez large, tu vois, si on va sur la partie droite de la page d'accueil qui est feedback.azure.com, eh bien on va avoir un classement, par exemple des blocs, c'est-à-dire le bloc machine learning, le bloc, alors tu parlais du portail, on a un bloc particulier pour le portail qui doit s'appeler management portal. Je crois que c'est celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Et etc., etc. Et donc, en fait, du coup, comme ça, ils ont regroupé les idées. Donc, on voit, par exemple, que sur la partie SQL Database, aujourd'hui, il y a 64 feedbacks qui ont été faits. Sur la partie Recovery, il y en a 40 sur Site Recovery, etc., etc. Autant pour moi, le portail Azure en preview, c'est-à-dire la nouvelle interface d'administration, la future nouvelle interface d'administration, donc ça s'appelle Azure Preview Portal, il y a déjà 688 feedbacks qui ont été faits d'idées. Donc on voit que c'est un sujet qui est relativement chaud. Et on peut classer après les idées par, effectivement, sous statut, sous catégorie, ou les sujets qui sont chauds, ou les sujets qui sont les top ideas, là où il y a le plus de monde qui a voté. Donc c'est vraiment super intéressant parce que, en fait, du coup, on a un vrai suivi et ça donne une idée vraiment d'où va aller, entre guillemets, certaines évolutions de la plateforme. Car quand les idées, il y a écrit plan, ça veut dire ça y est, c'est dans le rock. Même si c'est pas sorti, on sait que c'est déjà prévu et que ça va arriver. C'est un excellent moyen, en fait, de faire avancer le sujet. C'est effectivement de dire, moi je suis intéressé et de voter en fait pour les différentes idées. Et ça permet de remonter comme ça les priorités, d'être sûr que les choses arrivent. Voilà.
Ça aussi, c'est le nouveau Microsoft, donc on apprécie. Profitez-en.
Effectivement, donc juste pour rappel, les user voice, c'est fait pour faire du feedback et donner des idées. Ce n'est pas fait pour faire du support et répondre à des questions. Ça, pour ça, il y a les forums TechNet, il y a les forums MSDN.
Et c'est le bon moment, tant qu'il y a pas mal de produits en gestation et en finition, de faire encore des suggestions. Hein.
Exactement, on peut en faire pour Windows Server, la Technical Preview, on peut en faire, etc. Et c'est vraiment super important, hein, parce que voilà, chacun donne son idée. Donc, pour une idée, on va donner un titre, et puis après, on va donner une description. Donc, il faut essayer d'être le plus clair possible. On peut également télécharger ou mettre un lien vers une image quand on a une idée d'interface, par exemple, etc., etc. C'est vraiment suivi par les équipes produits. Alors, au niveau Azure, c'est extrêmement bien suivi. Mais sur les autres équipes, c'est pas mal suivi aussi. Mais Azure, c'est vraiment extrêmement bien suivi. Et on sait, les personnes répondent, les chefs produits répondent, on voit leur nom et tout. Ils disent, voilà, OK, je prends compte ton truc, etc., etc. C'est vraiment bien.
Bon, eh bien, merci Stan. Merci Arnaud. Et puis, on va terminer là. Et puis, on va se retrouver. On se retrouvera une prochaine fois, très bientôt.
Probablement dans 2 semaines.
Hein. Eh bien, voilà. Dans 2 semaines, à moins qu'il y ait un sujet qui tombe d'actualité vraiment chaude. Mais en tout cas, on se retrouve très bientôt.
À très vite.
Voilà.